pour recommencer, si vous voulez, il y a peut-être d'autres personnes qui arriveront, mais rien n'est sûr. Et lorsqu'on choisit, comme c'est le cas cette fois, un auteur contemporain qui n'est pas encore très connu de façon générale, d'abord du public français, mais aussi plus particulièrement du public japonais dont vous faites partie, c'est un peu difficile, ou bien une sorte de pari sur votre curiosité, et puis votre curiosité est mise à contribution parce que les livres de cet éditeur Minuit ne sont pas les moins chers. Donc, il faut aussi parier de votre côté en investissant plus que pour un livre de poche d'un auteur déjà bien connu. Alors, je comprends l'hésitation que l'on peut avoir, d'autant que l'Institut offre un certain nombre de cours, tous plus intéressants les uns que les autres, dès le samedi matin. Bon, c'est une concurrence entre les professeurs aussi, et on doit être le meilleur possible avec les meilleurs éléments possibles. Alors, passer ces dangers, disons, qui nous menacent et qui menacent la littérature, ce choix que j'ai fait est pour moi un choix raisonnable. Bonjour madame, et bonne année. Un choix raisonnable parce que des auteurs contemporains français, je pense que Volodine, Antoine Volodine, est un des plus importants, déjà aujourd'hui et sans doute pour l'avenir, à côté d'un certain nombre d'autres que vous connaissez peut-être déjà, comme Jean Eschnoz, qui est déjà venu plusieurs fois au Japon, y compris à l'Institut, donc il y a un petit décalage historique, disons. Jean-Philippe Toussaint, qui est encore plus connu au Japon, très célèbre depuis 20 ans déjà. Et ces trois auteurs que je cite, on pourrait en citer beaucoup d'autres, bien entendu, ont la particularité d'avoir été édités chez le même éditeur qui est les éditions de Minuit. Ce serait une sorte de choix de ma part, hein, très dirigé, et en faveur des éditions de Minuit, dont il faudrait expliquer l'histoire et les choix. Les choix, c'est-à-dire comment un éditeur décide de publier tel ou tel écrivain et pas tel autre, ou bien de publier une certaine quantité de livres par année et pas plus. C'est aussi un choix de rester une petite maison d'édition. Et c'est un choix qui aujourd'hui se révèle un choix intelligent parce que les grandes maisons d'édition ont beaucoup de mal à survivre et elles sont aujourd'hui absorbées, achetées, rachetées par d'autres grandes maisons d'édition ou bien par des groupes industriels, financiers, qui ne sont pas des éditeurs et dont les objectifs, les volontés ne sont peut-être pas en relation avec la qualité littéraire, mais avec un besoin de gagner de l'argent. Et les éditions de Minuit, dès le début, dès leur fondation peut-être, à quelques années près, ont voulu être rester une petite maison, et encore aujourd'hui, qui a donc la possibilité, maintenant la liberté, on pourrait dire, d'être une maison indépendante. Alors pour autant, ça n'est pas facile, hein, les éditions de Minuit ne roulent pas sur l'or, et autant que possible, il faut acheter leurs livres. Par ailleurs, il y a ce qu'on appelle un design, hein, qui est proposé, un format, une certaine qualité de mise en page ou de papier, qui ont mené les éditions de Minuit à choisir de ne pas laisser leurs ouvrages passer en collection de poches classiques, folio, pocket, etc. Ils ont créé eux-mêmes leur collection de poches, qui s'appelle la collection double, qui est un petit peu plus petit, donc, de poches, on peut dire, et qui est quand même un petit peu plus cher que les autres poches. Bon, voilà. Les deux auteurs que j'ai cités tout à l'heure, Jean Echenoz et Jean-Philippe Toussaint, ont été publiés chez Minuit pour la première fois dans les années 80, et ils sont restés chez cet éditeur jusqu'à maintenant pour la plupart de leurs ouvrages. En ce qui concerne Antoine Volodine, la situation est différente et, je vais maintenant parler de lui, tout à fait extraordinaire dans le paysage littéraire français. C'est un auteur qui a commencé à écrire très jeune, mais qui n'a pas publié tout de suite. Comme ça arrive très souvent d'ailleurs, on garde des choses et puis un jour on pense qu'on pourrait proposer, et d'ailleurs on ne trouve pas d'éditeur, avant un certain nombre d'années, on écrit d'autres choses, etc. Bref, cet homme qui est né en 1950 ou 49, on n'est pas certain, il y a une sorte de coquetterie, ou autre chose, on verra, 49 ou 50 donc, en France, dans la région lyonnaise, qui a fait des études de lettres, de langue, de russe en particulier. Il n'est pas russe, il est peut-être d'origine russe, on ne sait pas très bien. En tout cas, il a été professeur de russe pendant une quinzaine d'années, et puis il s'est arrêté pour se consacrer entièrement à la littérature. Il a commencé à écrire dans les années 80, on va dire, peut-être dans les années 70 déjà, mais son premier livre publié date de 1985. Et pour quatre ouvrages successifs, 85, 86, 87, 88 à peu près, chez le même éditeur, qui est De Noël, dans une collection habituellement et peut-être justement de science-fiction qui s'appelle Présence du futur. Cette collection accueille des ouvrages de science-fiction, comme son titre l'indique à peu près, et c'est là que Antoine Volodine a pu publier ses premiers livres, le premier ayant un titre un peu étrange, qui s'appelait « Biographie comparée ». De Jorian, Jorian, Murgrave. Voilà un titre un peu bizarre, même pour un ouvrage de science-fiction. D'abord, biographie, c'est déjà un genre en principe. Biographie comparée, qu'est-ce que ça veut dire? Comparée dans le cadre de biographie. Et puis, un nom de personnage, Jorian Murgrave, dont on a du mal à identifier l'origine géographique ou ethnologique. Ça ne semble pas très clair. Personnellement, je ne connais pas de Jorian ou de Jorian. C'est un prénom qui m'était inconnu et qui l'est resté d'ailleurs, je l'ai plus connu après. Donc, une certaine bizarrerie. Et qui avait donc sa place dans la science-fiction. Après ses quatre premiers ouvrages, il a été publié chez Minuit. Il n'y a pas de collection comme ça chez Minuit, donc directement dans la maison d'édition, pour quatre autres livres, donc ensuite jusqu'au milieu, jusqu'à la fin, jusqu'au début des années 90. Voilà, donc 85-88, non, jusqu'à la fin des années 90. Donc notre alto solo c'est 91. L'année d'avant, il doit y avoir Lisbonne, dernière marge, 90. et puis encore deux autres après. À la suite de quoi, il a de nouveau changé d'éditeur pour être publié chez Gallimard, dans la collection Blanche, qu'on appelle Blanche, qui est plutôt beige, mais qu'on appelle Blanche. Et là, il a publié un, deux, trois livres, je crois, pas vérifié en détail, hein, c'est pas très important, la quantité. Et puis, au début des années 2000, il a commencé à faire paraître des livres aux éditions du Seuil. Comme par exemple celui-ci qui s'appelle « Nos animaux préférés » et qui est le plus facile à lire. Peut-être celui que je recommanderais si je n'avais pas la possibilité de faire un cours sur un livre déjà traduit, puisque « Alto Solo » a été traduit en japonais par le professeur Tsukamoto. Et j'ai emprunté ici l'édition de notre médiathèque, donc je vais remettre cet après-midi. Et si vous souhaitez le lire en édition japonaise, il est là, il sera là. Voilà, faites-le passer. Et je crois que M. Tsukamoto a beaucoup de mérite, parce que s'il a trouvé lui-même, ou si on lui a indiqué cet écrivain, et tout le travail qu'il a fallu faire pour traduire cet univers très étrange de Volodine, c'est tout à fait méritoire, malheureusement sans succès, puisque cette édition n'a pas très très bien marché, et aujourd'hui les éditeurs japonais hésitent beaucoup, pour ne pas dire refusent, hein, de publier Antoine Volodine en japonais. Alors, je connais quelques collègues, en dehors de M. Tsukamoto, qui s'intéressent aussi à cet écrivain, qui souhaiteraient le traduire, le faire publier, et petit à petit, nous formons une sorte de lobby, hein, pour faire du lobbying sur les éditeurs, mais je ne sais pas si ça marchera très bien. Peut-être que ce sera un mouvement un peu dans le style des mouvements politiques chez Volodine, donc... un mouvement destiné à l'échec. Bah, on verra bien. En tout cas, vous, francophones, vous avez la possibilité de ne pas attendre les traductions et de les lire directement en français, quelle que soit la difficulté apparente, hein, d'entrer dans le texte. Je vous promets que vous serez récompensés. Et que cette difficulté n'est que temporaire, hein, le temps de passer la barrière, d'entrer dans le livre, comme ça arrive souvent, d'ailleurs, avec les livres. Alors, j'en étais à parler de ces quatre grands éditeurs, De Noël, Minuit, Gallimard, Le Seuil, très différents les uns des autres, et spécialement le premier et le deuxième. Hein, parce que De Noël, Présence du Futur, collection de science-fiction, considérée comme pas tout à fait de la littérature, je dis bien considérée comme, hein, par le grand public, les médias, l'université, par exemple. Et, juste après, les éditions de Minuit, considérées comme, là encore, un des éditeurs les plus littéraires. L'éditeur de Beckett, l'éditeur de Claude Simon, d'Alain Robbe-Grillet, et donc, comme je disais tout à l'heure, de Jean-Philippe Toussaint et de Jean Echenoz. C'est un parcours vraiment très étonnant et dont seule la lecture, hein, des livres pourra vous révéler la profondeur, l'intérêt. Est-ce que Volodine n'a publié que ça? Eh bien non, parce que Volodine n'est pas le vrai nom de l'écrivain qui se cache derrière et dont on ne sait pas le vrai nom. Moi-même, qui le connais, je ne sais pas son véritable nom de famille, mais je sais qu'il a publié d'autres livres avec d'autres noms. Et ceci en obéissant à un plan extraordinaire, un plan comme on en trouve dans la science-fiction, qui est d'inventer complètement un univers littéraire qui s'appelle maintenant, qui a été nommé par lui précisément, le post-exotisme. Alors, vous connaissez les mots qui forment cette combinaison. D'abord, Volodin a répondu à des journalistes ou à des critiques, des universitaires, qui lui demandaient où est-ce qu'on pourrait classer, dans quelle catégorie on pourrait ranger ses livres. Et pour un écrivain, c'est toujours un peu embêtant, cette histoire de classement, rangement. On préférerait qu'il n'y ait pas de classe ou de catégorie. Et alors, il a proposé lui-même d'inventer une catégorie, un nouveau genre, qui s'appelle post-exotisme. Et peut-être la lecture d'Alto Solo nous permettra de comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Vous connaissez le mot exotisme, ce sentiment ou cette qualification liée à des choses lointaines auxquelles on n'est pas habitué. Donc peut-être que la familiarité, ce qui est familier, habituel, normal, serait une sorte de opposé de ce qui est exotique, exote, hein, qui veut dire ex, donc en dehors. Et alors le post est un peu bizarre, parce que post ça veut dire après, après, au-delà, au-delà de l'exotisme. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'exotisme? Je ne sais pas très bien ce qu'il peut y avoir au-delà de l'exotisme. Bon, alors c'est en même temps une sorte de plaisanterie. Et on va trouver toujours avec Volodin ce double langage de sérieux et d'humour en même temps. Et ça n'est pas que l'un cache l'autre, c'est que les deux sont vrais en même temps. C'est sérieux et en même temps c'est drôle. Et je ne connais pas beaucoup d'écrivains qui jouent sur cette limite comme ça, en gardant toujours les deux côtés. On en verra des exemples dès le début du texte. Alors, il a publié sous d'autres noms, d'abord dans une collection pour enfants, voilà un écrivain qui n'a pas peur de tous les genres, chez un éditeur qui s'appelle l'École des loisirs, il y en a quelques-uns ici qui sont principalement destinés aux enfants, des membres de l'Institut, l'École des loisirs publie des petits livres avec un vocabulaire limité, des histoires assez courtes et simples, et Antoine Volodine, ou plutôt sous un autre nom, l'écrivain, qui s'appelle ici Antoine Volodine, a publié des livres pour enfants. En réalité, chez cet éditeur, l'École des loisirs, il a publié sous deux noms différents depuis les années 90. D'abord sous un nom masculin, Eli Kronauer, je vais vous l'écrire parce que ce ne sont pas des livres normaux. Et Manuela Dreiger. Voilà. Alors, Eli Kronauer a publié uniquement des livres, 4 ou 5 je crois, qui sont des histoires russes. Et donc un genre d'histoire russe qui s'appelle Biline. Alors au début je pensais qu'il avait inventé aussi ce mot-là, mais j'ai vérifié, et effectivement en russe, il existe en effet une catégorie d'histoire, de conte pour enfants qui s'appelle Biline. Et donc, Eli Kronauer a inventé des histoires dans ce style traditionnel russe qui s'appelle Biline, qui sont donc en quelque sorte des parodies, une parodie de genre historique et régional. Manuela Draeger, elle, publie des histoires, on peut dire, de science-fiction pour enfants, avec des personnages bizarres, des planètes, des choses très étranges. Et là aussi, c'est très intéressant. Je crois qu'elle en a publié 6, et il y en a un qui est sorti encore il y a quelques mois, qui s'appelle « Le radeau de la sardine ». Sauf erreur de ma part, ça peut arriver, parce que là je vous dis ça de mémoire, le radeau de la sardine. Vous connaissez peut-être le radeau de la Méduse ? C'est le nom d'un tableau célèbre qui représente des personnes qui avaient perdu leur bateau, qui se sont retrouvées sur un radeau formé de morceaux de bois comme ça, dans la tempête. C'est un tableau très célèbre, qui correspond d'ailleurs à une histoire réelle qui s'est passée au 19e siècle, une catastrophe. Et donc le radeau de la Méduse, c'était le nom du bateau, je pense, la Méduse, et ici le radeau de la sardine, il y a quelque chose d'un peu ridicule avec ce nom sardine, on peut s'amuser aussi comme ça. Enfin, un autre auteur qui est paru récemment et qui s'appelle Lutz Bassmann. Lutz Bassmann, c'est chez Verdier. Voilà. Encore un autre éditeur, Verdier. Donc là, on a dit École des loisirs. Voilà. Verdier, qui lui aussi est un auteur très exigeant, très limité dans sa production, et dont le directeur historique est mort il y a quelques mois, ce qui a beaucoup attristé Antoine Volodine, mais aussi d'autres écrivains comme François Bon ou Pierre Michon, qui sont venus aussi à l'Institut il y a quelques années. Alors, Lutz Bassmann, c'est donc un autre auteur, comme Antoine Volodine, produit par le même écrivain. Donc nous avons affaire à un homme, comme vous et moi, mais qui cache son identité et qui publie beaucoup de livres sous des noms différents et des éditeurs différents. Alors, on appelle ça polyonyme. Voilà, vous connaissez homonyme. Homonyme, c'est le même nom. Hétéronyme, c'est un nom différent. Donc, je n'utilise pas mon nom, j'utilise un autre nom, mais un seul. Et donc, polyonyme, plusieurs noms, utilisant plusieurs noms pour une même personne. Ce qui veut dire qu'il y en a peut-être d'autres. On n'est pas sûr. Par exemple, il y a 4 ans ou 5 ans, Antoine Volodine a prétendu traduire une femme auteur russe qui s'était suicidée dans les années 90 et qui s'appelle Maria Sudaïeva. Maria Sudaïeva, qui a publié un livre qui s'appelle « Slogan », qui est une histoire assez politique, eh bien, moi je n'ai pas trouvé de preuve de son existence, cette Maria Sudaïeva. Et pourtant, l'individu caché derrière Antoine Volodine accepte qu'il est bien Manuela Draeger, Eli Kronauer et Lutz Bassmann, mais il dit « Ah non, pour Maria Sudaïeva, j'ai vraiment traduit quelqu'un. » Est-ce que c'est vrai ? On n'en sait rien. C'est encore une mystification, peut-être. D'ailleurs, est-ce que c'est tellement important de savoir ? Bien sûr, ça construit un système, ça veut dire quelque chose, et on va réfléchir à cette question. qu'est-ce que ça veut dire de publier des livres sous des noms différents, en essayant d'abord de cacher, de séparer tous ces noms, et puis en acceptant maintenant de les rassembler, de les porter. Ça veut dire quelque chose, mais je ne vous le dirai pas tout de suite, hein, on verra un peu plus tard. Alors voilà donc dans quelle situation littéraire Alto Solo se présente à nous comme un livre des éditions de Minuit, sorti en 1991, c'est-à-dire presque il y a 20 ans déjà. Ce livre a eu une bonne réception critique, d'abord parce que l'éditeur est très connu, tout le monde sait que Minuit ne publie pas n'importe quoi, choisit bien ses auteurs, donc il y a une sorte de confiance qui est accordée automatiquement à l'éditeur par des journalistes, par des critiques littéraires, par des universitaires, par des lecteurs. Et cette confiance a déjà été renforcée en quelque sorte par le premier livre publié par Volodine chez Minuit, Lisbonne, dernière marge, dont le titre est indiqué en page intérieure, et qui a eu aussi un bon accueil critique. Voilà donc le deuxième livre d'Antoine Volodine chez Minuit, et à ce moment-là, beaucoup de lecteurs, beaucoup de critiques ignorent que Volodine a publié 4 livres déjà chez De Noël. Parce que, comme je disais, ce sont des mondes littéraires tellement séparés, la science-fiction chez De Noël et la littérature, entre guillemets, chez Minuit, que on n'a pas de raison de savoir qu'il a publié quelque chose ailleurs. Bon, peut-être les journalistes, les attachés de presse doivent le savoir, mais les lecteurs de la librairie ne le savent pas. Je vous ai distribué une petite feuille sur laquelle, d'abord, je vous ai donné le plan de travail pour les 5 semaines à venir, y compris celle-ci, bien sûr. Sachant que, puisque je crois qu'il y a une personne qui n'était pas au cours précédent sur Flaubert, je ne peux pas assurer une session de 10 semaines, puisque je dois accompagner mes étudiants en stage linguistique en France, et donc l'Institut m'accorde la possibilité de faire un cours de 5 semaines. Et ça tombe bien, parce que le livre n'est pas très long, et vous aurez le temps de le finir pendant les 5 semaines suivantes, si ça n'est pas déjà fait. Voilà donc ce programme assez détaillé, suffisamment, je crois, pour vous permettre de préparer. Et puis, pour vous aider, je vous ai mis en dessous, la liste des personnages qui apparaissent dans le texte jusqu'à la page 31, donc en principe pour aujourd'hui et un peu pour la semaine prochaine, parce que ces noms de personnages sont assez durs à retenir, à prononcer aussi, à retenir, de sorte que d'une page à l'autre, on ne sait plus très bien de qui on parlait. Donc, nous voilà avec ces noms fixés sur le papier. Nous allons pouvoir nous entraîner à les prononcer. Si on a le besoin, on pourra vérifier dans le texte en japonais comment on les a transcrits en katakana, si ça vous paraît nécessaire. Et puis tout en bas de cette page, je vous ai indiqué le programme pour la session de printemps. À partir du mois d'avril, donc Zazie dans le métro, un roman de Raymond Queneau que vous pourrez lire avec moi si vous le souhaitez, et on pourra s'amuser encore, peut-être plus, avec Raymond Queneau qu'avec Antoine Volodine, et là pour quelque chose de bien connu, hein. Tout le monde connaît Zazie dans le métro, je suppose, le film. Qui a lu le livre? Voilà, bon bah très bien, c'est la démonstration parfaite de ce qu'il fallait. Qui avait entendu parler d'Antoine Volodine avant le programme de ce cours. Non ? Merci de votre confiance alors. c'est pas obligatoire, c'est pas automatique. Et je vais essayer de la mériter et de le défendre et de le faire connaître de cette façon. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire alto solo ? Alors, une voix d'alto ou bien un violon, viola en japonais, une sorte de violon un petit peu plus grand que le violon qui s'appelle alto. Alors en fait, avec ces deux sens, on a en fait les deux sens du mot alto. Alto, c'est peut-être d'abord historiquement l'instrument de musique qui s'appelle donc en français un alto, en français d'aujourd'hui, mais qui a pu porter d'autres noms. Est-ce que j'ai noté d'autres noms? Instrument à cordes, donc intermédiaire entre le violon et le violoncelle, hein, pour le son. Le son du violon peut être très aigu, du violoncelle beaucoup plus grave, et entre les deux, il y a l'alto. Et on trouve par exemple chez Baudelaire, dans son livre qui s'appelle « L'art romantique », en 1867, il parlait de Le Comte de Lille, le poète Le Comte de Lille, en disant que son instrument, c'est-à-dire son instrument, sa poésie, son instrument a le son doux mais large et profond de l'alto. Le son doux mais large et profond de l'alto. Donc trois qualités, doux, large, profond de l'alto. Et également un autre sens qui est la voix de femme, qui est une voix basse, une voix de basse. Hein, on se perd un peu dans alto, on pense que c'est haut, mais c'est une voix de basse. Et aujourd'hui, en français, on dit plutôt contralto. Je ne sais pas ce qu'on dit en japonais pour la voix de basse féminine.
Seulement alto.
Oui, seulement alto. Hein, on a gardé ? Très bien. Donc, nous sommes dans l'univers de la musique, avec le mot alto. Et puis, solo, je pense qu'il n'y a pas de problème. Solo, soliste, dans l'orchestre, il y a beaucoup d'instruments qui jouent en même temps, et de temps en temps, pour certaines parties musicales, il y a un instrument qui fait un solo pendant que les autres s'arrêtent, de façon à articuler, montrer, structurer, faire entendre, bien sûr, des constructions musicales avec tantôt plusieurs instruments, tantôt un seul. Ce qui veut dire que lorsqu'un musicien arrive tout seul pour jouer d'un instrument, on n'a pas besoin de parler de solo. Il est tout seul, donc il va jouer de la guitare, par exemple, ou du piano. Mais c'est seulement lorsqu'il y a un groupe, donc un orchestre, et que dans cet orchestre, il y a un instrument qui peut jouer tout seul de temps en temps, qu'on va utiliser ce mot « solo ». Donc « solo » veut dire « tout seul », mais « tout seul » dans un groupe. Quand même important aussi de faire la différence. Donc « alto solo », ce serait, avant de connaître ce livre, hein, d'ouvrir ce livre, le musicien ou la musicienne, peu importe, qui va participer à un orchestre avec un violon alto et qui, de temps en temps, aura une partie de solo. Voilà ce que pourrait être alto solo. Des questions ou des remarques sur le titre alto solo ? Ça vous fait penser à quelque chose en particulier ? Pas spécialement, hein, on n'a pas d'image. Ça reste assez vague et mystérieux. Qu'est-ce qui peut être alto solo ensuite dans un livre ? Est-ce que ça sera une personne ? Est-ce que ça sera un événement ? Alors, si ce texte nous place dans un univers de musique et d'orchestre, on va imaginer que l'histoire qu'on va lire va nous proposer aussi un univers musical avec un orchestre. Alors en effet, ça viendra, mais ça viendra pas tout de suite. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre le livre ? On tombe d'abord sur la première page de chapitre qui s'appelle « L'après-midi du 27 mai ». Alors on peut, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais moi je regarde souvent, alors bon, s'il y a une partie, ça veut dire qu'il y en a deux, ou trois ou quatre, j'aime bien avoir une idée comme ça. Alors, à peu près vers le milieu, on trouve une partie numéro 2, qui s'appelle « Le soir du 27 mai ». Donc là, c'était au début, c'est l'après-midi du 27 mai, et puis numéro 2, le soir du 27 mai. Donc c'est le même jour. Et puis, est-ce qu'il y a une troisième partie ? Il y a une troisième partie, mais alors presque à la fin, vraiment les toutes dernières pages, le matin du 27 juin. Donc c'est le même numéro, 27, mais un mois plus tard. Et d'ailleurs, il n'y a pas de numéro d'année, donc on n'est pas sûr que c'est la même année entre les parties 1, 2 et 3. Mais bon, on peut supposer que c'est la même année. Alors si c'est la même année, ça veut dire que tout ce livre nous propose des histoires, des aventures, qui sont concentrées sur une journée avec un petit morceau qui se trouve un mois plus tard. Bon, ça nous donne déjà une petite idée de forme temporelle. On vient de sortir de l'éducation sentimentale, qui n'est pas un roman ou un livre sur une journée. Ça concerne plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est un certain style, un certain type de littérature. En même temps, c'est un livre assez petit, donc l'action ou les actions concentrées sur une journée, c'est tout à fait raisonnable, peut-être possible en tout cas. Donc, partie 1 et 2, proposant une articulation, une séparation entre l'après-midi et le soir. On va mémoriser cette chose, puisque l'après-midi et le soir, c'est en général pas tellement séparé. Moi, dans mes journées, je passe souvent de l'après-midi au soir sans me rendre compte. Donc, qu'est-ce qui pourrait justifier que l'on coupe, que l'on s'arrête, que l'on mette une séparation comme ça entre les deux? On verra plus tard. Mais c'est ce que cette page déjà nous propose quand on la trouve. Alors, j'ai cherché, grâce à Internet, qui nous permet maintenant de chercher tout et n'importe quoi, j'ai cherché des 27 mai. Est-ce que ce 27 mai, ça veut dire quelque chose dans un domaine ou dans un autre? Peut-être dans un domaine musical, peut-être dans un domaine historique, peut-être dans le domaine de la vie personnelle de l'auteur, mais là, l'Internet ne permet pas de le savoir. Alors, je n'ai pas trouvé de choses particulières. 27, c'est un beau nombre, c'est un nombre intéressant, mais on n'a pas encore de raison particulière de s'intéresser au nombre. Moi, je connais un peu plus les textes d'Antoine Volodine, donc je sais que souvent les nombres ont un sens particulier, mais pour vous, c'est un jour banal comme les autres. Ça pourrait être le 26 ou le 28. On va garder peut-être cette idée simple. En cherchant comme ça des 27 mai, j'ai trouvé par exemple que le 27 mai 1905, c'est la victoire des Japonais sur les Russes à la bataille de Tsushima. Mais visiblement, ça n'a aucun intérêt pour Volodine. Ah, pas sûr, parce que Volodine, russe, Tsushima. Non, franchement non. Le 27 mai 1942, 42, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un attentat contre un haut personnage du régime nazi qui s'appelait Reinhard Heydrich, et qui était en voiture, et des terroristes tchèques ont lancé une grenade dans sa voiture. Il a été gravement blessé, il est mort un peu plus tard, et pour se venger de cet attentat, les nazis ont fait exécuter tous les habitants d'un village voisin. Pour autant, ça n'a pas vraiment de relation. Le 27 mai 43, l'année suivante, le même jour, les groupes de la résistance française, qui étaient des groupes parfois très différents, politiquement, géographiquement, se sont tous rassemblés pour former un Conseil national de la résistance. Cette idée de rassemblement de la résistance, de groupe de résistants, ça pourrait être intéressant pour Volodine, qui parle beaucoup de terrorisme, de complot politique, de groupe, mais en fait on ne le sait pas encore. Donc rien de spécial. Restons-en là sur le mystère du 27 mai. On verra peut-être plus tard des réponses. Je tourne la page et j'arrive dans le texte dont je vais vous lire quelques pages pour vous donner le ton. C'est l'histoire d'un homme, de deux hommes. En fait, ils sont trois. Aram, Matko et Will McGrodno. La porte de la prison se referme derrière eux. Elle claque. Les articulations de fer s'entre-heurtent et produisent le même tonnerre que d'habitude. On dirait que des wagons soudain déraillent et l'un dans l'autre s'encastrent. Le même fracas assourdissant que d'habitude. Avec toutefois une différence. Aujourd'hui, au lieu d'écouter les échos mourir le long des couloirs, le long des escaliers, de la verrière, les trois sont debout dans une rue tiède. Des murailles hautes les dominent. Aussi rébarbatives que celles qui ont borné leur univers pendant 4 ans. Mais, sur ce ciment familier, le soleil n'est plus grillagé. Un camion traverse en ronflant le carrefour voisin et disparaît. Les trois ont de la poussière dans les narines. L'impression que l'air a changé de consistance et qu'ils ont vraiment cessé de nager dans les relents de serpillères et de tinettes. Ils ne savent pas trop qu'en penser. Juste avant de déclencher le tintamarre, l'avalanche huilée des pennes et des cliquets et des barres, un surveillant leur a lancé, en guise d'adieu, « Ça suffit. Ici, vous êtes indésirables. On en a soupé de vos sales tronches. Cherchez-vous un autre palace. Allez vous faire pendre ailleurs. » Ils n'ont pas une conscience claire de ce qui vient de leur arriver. Libération anticipée, par manque de place, plus que pour bonne conduite. Une ordonnance du ministre de la Justice. En haut lieu, on a dû prévoir pour bientôt une nouvelle fournée de clients. Libération conditionnelle, avec mise à l'épreuve de 18 mois. On les expulse, en somme, mais en menaçant de les reprendre à la moindre peccadille. Avant de sortir, ils ont signé sur un grand registre noir, sans enthousiasme. Leur nom figurait par ordre alphabétique. Amir Bekian, Bouderbichvili, Magrodno. Maintenant, ils avancent, hébétés sous la lumière. Au bout de 5 à 6 mètres, ils s'asseyent sur le trottoir. S'ils possédaient une cigarette, ils l'allumeraient et se la partageraient. Or, ils ne possèdent aucune cigarette. Leur unique richesse se monte à 15 sous. 8 sous pour Aram, 6 sous pour Matko Amirbekian, 1 sou pour Will McGrodno. Dans le caniveau se tortille une rigole minuscule, une veine gonflant sous une couche de terre pulvérulente. Il regarde l'eau qui rampe. Il l'observe qui serpente sans assurance et se hérisse de brins de sueur à leurs pieds. Tous les trois, près du sol, mains sur les genoux, tête penchée, ils ressemblent aux impotents des mouroirs qui urinent sous eux et fixent, des heures durant, leurs pantoufles détrempées. On dirait qu'ils méditent. Derrière eux, de nouveau, serrures et gonds produisent un cliquetis infernal. Le gardien les avait espionnés par le guichet. Il se donne la peine de glisser sa casquette jusque dans la rue pour leur crier « Hé les gars, pas question de camper ici !» Puis, quelque chose comme un paternalisme canaille adoucit sa voix. « Allez les gars, faites une croix sur le passé et oust, vous avez encore la vie devant vous, et j'espère bien qu'on ne se reverra plus. » Alors ils se relèvent, ils obliquent vers une avenue déserte. 200 mètres plus loin, ils s'asseyent en bordure du bitume, en face d'une scierie dont les machines se taisent, car la pause de midi a débuté. Là, ils comptent leurs pièces, 15 au total. Ils les divisent en 3 parts égales et les empochent. C'est aussi l'histoire d'un oiseau qui, à la fin de l'automne, n'a pas pu accompagner son groupe vers le sud, car il a eu l'aile blessée lors d'une bagarre avec les frondistes. Il s'est réfugié dans une mansarde, au faîte d'une maison promise à la démolition, mais que les pioches n'ont pas encore attaquée. Par les fenêtres cassées, à travers la suie et les lézardes de son vasistas, il voit la rue. Dans le quartier habitent des retraités, des vieilles femmes surtout, des vieilles femmes portant le deuil. L'oiseau s'appelle Ragogine. Il souffre à cause de sa situation précaire, à cause de la vie clandestine qu'il mène au secret de cette maison froide, délabrée. Il souffre aussi à cause des cris brutaux de la nuit, vacarme des vitrines qui éclatent, attentats, clameurs haineuses. Souvent, la solitude l'écrase. À Champs-Rouches, il ne connaît personne de sûr, aucun oiseau. D'autres douleurs se sont enracinées dans son corps. Sa blessure a été mauvaise, jamais guérie. La plaie suppure, s'infecte. Elle fait mine de se cicatriser, mais aussitôt elle se redéchire. Il n'a plus une seule plume du côté droit. Sur sa peau nécrosée s'étendent des marbrures concentriques. Il cache son infirmité, ses fièvres. Il cache sa nature d'oiseau sous un pardessus très ample, dont la ceinture est une ficelle. Les veuves noires de la rue l'ont repéré et le tolèrent. Elles ne le dénoncent ni à la force publique, ni aux patrouilles de salubrité du parti. Leur pitié s'arrête là, à cette négation de son existence. Il ne leur viendrait pas à l'esprit, par exemple, d'abandonner sur son seuil une jatte de lait, un quignon de pain. Ragogine doit rôder hors du quartier pour se nourrir. Quand il marche sur les trottoirs, les passants se retournent, ils le toisent avec une moue dédaigneuse, humide. Aux bulles de salive se mêle la volonté d'en découdre. Afin de provoquer les gens le moins possible, Ragogine pourtant s'interdit de croiser les regards. Ses yeux balaient l'espace immédiat qui poudroie devant ses chaussures. Ses larges pupilles ne véhiculent ni prières ni insultes, elles n'expriment rien. Elles lui servent seulement à capter l'image des mégots, des ordures consommables, des obstacles, humains ou non. Il souhaite ainsi éviter les incidents, ne pas susciter la curiosité du pouvoir, des anciens combattants, des bandes. Son expérience de la capitale est mince, il l'a subie comme un long cauchemar. Il se promène avec un faux passeport, absurde, puérilement trafiqué, que, par chance, il n'a jamais dû montrer à un contrôle. Tapis à Champs-Rouges derrière des carreaux fendus et des toiles d'araignée, il essaie de rejoindre son groupe par le chemin des rêves. Il s'imagine qu'il réussira à rétablir, en dormant, le contact. Jusque-là, ses assoupissements vertigineux ne l'ont entraîné nulle part. Voilà donc pour ces premières pages, avec un ton très particulier, qui n'est pas très difficile à lire. Ce ne sont pas des longues phrases compliquées, comme celle de Claude Simon, par exemple. Ce ne sont pas non plus des constructions bizarres ou inachevées. comme par exemple les textes de Nathalie Sarraute, où il y a beaucoup de points de suspension difficiles à compléter pour les lecteurs. Non, ce sont des phrases simples, bien construites, et qui proposent très correctement, en français très correct, donc presque classique, je dirais, une langue classique, sans difficulté. Pour autant, les difficultés sont bien sûr dans le sens des mots, et lorsqu'on lit, on dit, tiens, est-ce que ça veut vraiment dire ça? Est-ce que ça veut dire autre chose? Bon. L'histoire se présente sous forme d'histoire. Le mot histoire revient plusieurs fois. C'est le deuxième mot de la première phrase. C'est l'histoire d'un homme. Et puis, lorsqu'on a passé à la page 11, en bas de la page 11, vous avez entendu, c'est aussi l'histoire d'un oiseau. Et on verra qu'il y a un certain nombre de paragraphes qui commencent par c'est l'histoire de, c'est aussi l'histoire de, c'est encore l'histoire de. Donc il y a plusieurs histoires. Et à chaque fois, ça commence en disant c'est l'histoire de quelque chose ou de quelqu'un. Plutôt quelqu'un, on va dire. Hein. Mais comme on a parlé d'oiseau, c'est un peu bizarre aussi. L'histoire d'un oiseau. Bon. C'est l'histoire d'un homme. D'accord. Beaucoup de livres qui sont l'histoire d'un homme. Hein. C'est un résumé un peu rapide de la littérature. Mais tout de suite après, ça se corrige. Alors, je ne sais pas qui écrit. Quelqu'un écrit, un narrateur écrit, et il va nous raconter une histoire. Et sous la forme un peu orale quand même, hein, on a l'impression que c'est quelqu'un qui parle, qui dit, c'est l'histoire d'un homme, de deux hommes. En fait, ils sont trois. C'est-à-dire qu'on corrige. Si l'écrivain souhaitait éviter de corriger, il peut barrer, et puis sur le livre, on va trouver imprimé, c'est l'histoire de trois hommes. Alors pourquoi on laisse, ou bien pourquoi on fait exprès de dire, c'est l'histoire d'un homme, de deux hommes, en fait ils sont trois. C'est peut-être parce qu'on veut montrer, comme la voix de quelqu'un qui commence à parler pour raconter des histoires. D'habitude, c'est dans un groupe, comme ça, on raconte des histoires. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme. Non, en fait, ils sont trois. Donc, on corrige tout de suite, comme dans une situation réaliste, en quelque sorte, de groupe. Un ton oral, une hésitation réaliste, comme dans un groupe. Et puis cette idée de progression, on passe de 1 à 2 à 3, c'est déjà une population, presque. Ils sont trois, et tout de suite, on nous dit leurs noms. Aram, Matko et Will McGrodno. Alors bon, c'est pas tout à fait égal, parce que on a les deux premiers, peut-être que ce sont des prénoms, et le troisième, prénom et nom de famille. Donc, ou alors ils s'appellent tous les trois McGrodno, peut-être trois frères. Est-ce qu'on veut nous présenter trois frères? En tout cas, ils sont trois, ils sont ensemble. Hein, cette idée d'être ensemble est sans doute importante. Avant de savoir s'ils sont trois frères ou de familles différentes, en fait, on découvre à la page suivante, hein, qu'ils sont avec trois noms de famille différents, écrits dans l'ordre alphabétique, dans le livre de la prison. Mais avant déjà, nous ne connaissons que leur prénom et un nom de famille. Et tout de suite, pour vous comme pour moi, je pense, c'est l'étrangeté de ces noms qui est plus importante que les noms eux-mêmes. Qui est-ce qui peut bien s'appeler Aram ? D'où est-ce qu'on vient quand on s'appelle Aram? Alors, pour moi, de culture française, qui n'a pas beaucoup de familles à l'étranger, c'est assez difficile de connaître ça. Et si on a plus ou moins étudié l'histoire du monde, l'histoire de l'Europe, l'histoire du XXe siècle, bon, ça dépend tout à fait des personnes. Est-ce que Aram et Matko sont des prénoms de la même origine, c'est une possibilité. Et quand même, de l'autre côté, Will. Will, ça je connais bien, Will. J'en vois tous les jours des Will, des William, dans des films américains, dans des séries américaines, dans des livres. Des Will, on en connaît. Et puis, Will, ça pourrait être aussi la volonté, hein, du verbe anglais. Bon, enfin, restons-en là. Will et Mac. Mac aussi, ça vient de l'Écosse. Hein, et en écossais, Macintosh, Macintyre, Mac Nantoka, ça veut dire fils de Intosh, fils de. Donc un Will, fils de Grodno. Hein, ça serait. Mais Grodno n'est pas du tout anglais ni américain, donc c'est un petit peu bizarre. Voilà une particularité que vous trouvez donc pour la première fois. Et qui est absolument fondamental dans toutes les œuvres de Volodin. Les noms des personnages sont étranges et ils sont toujours des composés, des mélanges qui nous proposent des origines très 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 diverses. En cherchant un petit peu plus en détail, si on a envie de le faire, j'ai trouvé que Aram, c'est un nom biblique. Alors si on a fait des études de la Bible, si on est catholique, si on est pratiquant, si on connaît un peu plus, bon, Aram, c'est le nom d'un des fils de Sem. Et Sem, c'est lui-même un fils de Noé. Noé, alors Noé, tout le monde connaît, hein, l'arche de Noé. Et Noé avait trois fils. Et Sem est un de ses trois fils. Sem, lui aussi, a des enfants, et Aram est son cinquième enfant. Donc, lorsqu'on lit la Bible, la Genèse, première partie de la Bible, eh bien, on découvre l'existence de Aram. Mais dans la Bible aussi, il y a tellement de noms à retenir que c'est très difficile de les retenir en réalité. Donc, Aram. Et quand même, Aram, ça fait penser à des noms, par exemple à Arménie. Aram, Araménie, Arménie. C'est bien l'origine, en effet, de ce nom. Le nom donc du personnage de la Bible a été donné à une région. Une région qui correspond aujourd'hui à peu près à la Syrie, Syria. Et un petit peu plus, hein, le royaume araméen. Syrie, à l'époque on aurait dit Mésopotamie, mais aussi Arménie. Arménie, et Aram en effet est un prénom tout à fait arménien. Je ne sais pas si vous connaissez donc bien la musique, c'est le prénom d'un compositeur russe, enfin plutôt soviétique, en fait géorgien, de l'époque soviétique. Géorgien, c'est Gulusia, hein, en japonais. Et un compositeur qui s'appelle, en français, on dit Khatchaturian. Khatchaturian. Donc, en japonais, Khatchaturian. Et qui est très connu, je crois. Eh bien, il s'appelle Aram. C'est son prénom. Donc, c'est un prénom, donc, finalement, assez courant. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans l'univers habituel de Volodin, il y a souvent des références aux à la situation soviétique, à des pays comme ça, dominés par la dictature, communiste ou pas communiste, enfin, c'est pas clair, hein. Volodin ne fait pas de l'histoire, il fait de la littérature, mais il utilise tout ça. Et prendre un prénom d'un musicien qui était lui-même soviétique, qui a participé au régime communiste, pendant de nombreuses années, c'est assez intéressant. Alors, Khatchaturian a donc été communiste à peu près dès le début. Il était né en 1903 et il est mort en 1978. Donc, ça fait une vie assez longue de 75 ans. Et bien qu'il avait beaucoup de succès, il a été condamné. Alors condamné, ça ne veut pas dire qu'il est allé en prison, mais je crois que c'est en 1948, il y a un haut dirigeant soviétique qui s'appelait Jdanov, comme on peut dire en japonais, et qui avait décrété qu'un certain nombre d'artistes étaient à rejeter parce qu'ils étaient formalistes. Formalistes, ça veut dire concentrés sur l'art, hein, plutôt que sur le peuple ou la politique. Et trois musiciens étaient concernés. Il s'agissait de Prokofiev, que vous connaissez sans doute, Shostakovich et Khatchaturian. Tous les trois étaient considérés comme des dangereux formalistes musicaux. Cependant, ils n'ont pas été arrêtés, ils ont continué à composer, mais ils n'étaient plus les musiciens, les musiciens du régime, les musiciens désignés comme les musiciens du régime. Aujourd'hui, en France, par exemple, le musicien du régime, c'est Johnny Hallyday. Il y a d'autres chanteurs et musiciens, mais Johnny Hallyday, c'est vraiment le chanteur choisi par le gouvernement pour représenter une certaine idéologie. C'est tout à fait clair, c'est pas moi qui me moque du gouvernement, c'est comme ça. Bon. Donc voilà, alors ces musiciens étaient complètement soviétiques, et puis quand même un petit peu trop, bon, on les a repoussés. Et Khatchaturian a continué à avoir beaucoup de succès, d'abord parce que c'est un très bon compositeur, et par ailleurs il plaisait beaucoup au peuple, parce qu'il utilisait beaucoup d'influences folkloriques. Alors, la plupart des morceaux qu'on peut écouter, j'ai encore réécouté hier soir sur YouTube quelques morceaux de Khatchaturian. En effet, les influences folkloriques sont très présentes et très bien utilisées. Ça n'est pas de la musique folklorique, c'est de la création musicale, mais venant du folklore. Ce que je dis là est important pour la suite. Ça pourra compter. Voilà. Voilà pour Aram. Alors, on va pas non plus passer une heure hein, sur chaque nom ou prénom. Mais au début, comme ça, on s'intéresse un peu. Et puis, comme vous avez la liste, vous pouvez vous amuser à la maison, vous aussi, hein, avec Google et Wikipédia, si vous en trouvez d'autres. Ça permet de voir ces position géographique originaire de ces prénoms. Donc Arménie, Matko, c'est un prénom assez courant en Croatie. Croatia, donc un prénom croate, comme on dit en français, croate. Will et Mac, on a déjà dit déjà, enfant d'eux. Et Grodno, c'est le nom polonais, donc un mot assez polonais, d'une ville qui se trouve maintenant en Biélorussie, ou Bélarus. Alors, l'histoire de cette région, de toutes les régions d'ailleurs, mais surtout de cette région d'Europe centrale et de Russie, et de sud de la Russie, au XXe siècle, ce sont des régions qui ont changé plusieurs fois de nom, de pays, les populations ont dû s'habituer à des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a tellement de problèmes politiques dans beaucoup de régions. C'est que on a tellement déplacé, modifié, changé que les gens ne savent plus qui ils sont, où ils sont, de quel pays, de quelle langue, et c'est assez compliqué. Alors, ce mélange arménien, croate, géorgien, polonais, ça nous situe quand même dans une certaine partie du monde. C'est vrai que ça n'est pas en Afrique, ça n'est pas en Amérique du Sud, ni en Asie non plus. C'est l'Europe centrale, autour de cette partie peut-être originaire de la civilisation européenne ou indo-européenne, comme une sorte de berceau, de creuset, hein, des cultures et des religions qui posent encore aujourd'hui beaucoup de problèmes, tout en étant nos origines. C'est donc là que Volodine situe ces personnages sans pour autant nous expliquer ces informations. Je suis allé les chercher moi-même. Et si je ne l'avais pas fait, j'aurais très bien pu continuer à lire mon livre sans savoir, sans avoir besoin de savoir que Aram est arménien, que Matko est croate. Mais même sans le savoir, je ressens cette diversité d'origine. C'est pas Pierre, Paul et François. Eh oui, c'est ça. Bon. Ces trois personnages nous ont été posés là, comme sur la table en quelque sorte. Ils sont trois. Leur nom. Et juste après, une première situation dans un monde, dans une sorte de société qui commence par un mauvais côté de la société, c'est la porte de la prison, qui se referme derrière eux. Ah, ça veut dire qu'ils sortent de prison. Ça, c'est très clair en français. La porte de la prison se referme derrière eux. S'ils entraient en prison, on dirait que la porte de la prison se referme sur eux. Donc derrière, ça veut dire ils sont devant, ils sont dehors. Elle claque. Les articulations de fer s'entre-heurtent, produisent le même tonnerre que d'habitude. On dirait que des wagons soudain déraillent et l'un dans l'autre s'encastrent. Le même fracas assourdissant que d'habitude. Alors ça fait presque 5 ou 6 lignes déjà au sujet de la porte de la prison. C'est-à-dire que ce bruit, ces bruits de porte de prison prennent déjà plus de place que les 3 premières lignes pour présenter les personnages. Ce bruit de la porte de prison et cette porte de prison elle-même est focalisée par l'écriture. On vient de nous poser 3 hommes, on n'a même pas le temps de les connaître, et déjà on est écrasé presque par le bruit de la porte. Comme si la porte énorme, monstrueuse, était justement une certaine idée de quelque chose qui écrase les hommes. Et alors, 2 fois le mot d'habitude. Parce que d'habitude, comme ils étaient à l'intérieur de la prison, ils entendaient cette porte. Mais ils l'entendaient de l'intérieur. Et de l'intérieur, on entendait surtout l'écho lointain. Ça veut dire aussi que la prison est grande, qu'on est enfermé à l'intérieur et qu'on ne sait même pas où est la porte. Sauf à entendre ce bruit lointain et que l'on peut laisser continuer. C'est l'idée de l'écho. L'écho, écouter les échos mourir le long des couloirs. Avec ce thème quand même de la mort, dans l'écho mourir. Comme s'il n'y avait pas de fond, pas de limite à la prison. Dans la prison, il y a des couloirs, des escaliers, la verrière, et de l'autre côté, à l'extérieur, maintenant, c'est la rue tiède. Alors cette rue tiède, ça correspond en effet à la date, 27 mai. 27 mai, enfin, en France, pour les lecteurs qui ont pu lire ce livre en premier, publié en France et écrit en français, 27 mai, en général, oui, il fait beau, ça. Beau temps. Au Japon aussi, d'ailleurs. Peut-être dans tout l'hémisphère nord de la planète, correspond à quelque chose comme ça. Donc, rue tiède, qui correspond en effet à la date. Des murailles hautes les dominent. Après la porte, donc les murs qui les dominent, aussi rébarbatives que celles qui ont borné leur univers pendant 4 ans. 2 informations. D'abord, les murs existent des 2 côtés. Et en fait, c'est comme la porte. On entend le bruit de la porte quand on est à l'intérieur et quand on est à l'extérieur. Et le mur, c'est le même mur quand on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais évidemment, si on est à l'intérieur ou à l'extérieur, ça a un sens très différent. Le même mur. Et puis la deuxième information, c'est la durée. Ils étaient en prison pendant 4 ans. Alors qu'est-ce que c'est qu'une durée d'emprisonnement de 4 ans ? 4 ans, dans un sens, c'est beaucoup. C'est pas pour une petite faute qu'on reste 4 ans en prison. Et d'ailleurs, on apprendra à la page suivante que c'est une libération anticipée. Ça veut dire que leur peine prononcée par un tribunal, si c'est une justice normale, était supérieure à 4 ans. Et avant la fin de ces 4 ans, ils sont, de ce temps, ils sont libérés au bout de 4 ans. En même temps, c'est pas un crime d'homicide. C'est-à-dire, ils n'ont pas tué quelqu'un. Ou en tout cas, pas volontairement. Parce que dans ce cas-là, la peine de prison est plus longue. Hein, c'est 15 ans, 20 ans. Enfin bon, au moins pour ce que je connais. Hein, ça dépend ensuite des pays, des cultures, des gouvernements aussi. Donc une peine intermédiaire qui ne permet pas de qualifier raisonnablement la raison pour laquelle ils étaient en prison. D'ailleurs, on n'a pas d'explication. Mais sur ce ciment familier, le soleil n'est plus grillagé. Voilà la différence hein, entre le mur d'un côté ou de l'autre. Plus grillagé, ça veut dire que de ce côté du mur, on est libre. Alors on pense que lorsqu'on est libre, tout est fini, tout est possible, agréable. On va voir que c'est pas du tout le cas, surtout lorsque on est libéré sous forme anticipée. En effet, aujourd'hui, dans les discours, les informations qu'on reçoit sur la prison, il est beaucoup question de préparer la sortie de prison. Parce que si on sort et qu'on reste comme ça sur le trottoir sans savoir quoi faire, il n'y a pas beaucoup de chances de réussir à véritablement sortir de prison. En revanche, si on prépare bien de l'intérieur avec un système d'aide, des personnes, des associations pour essayer de trouver du travail, etc., on peut, dès la sortie de la prison, essayer de reprendre une vie normale petit à petit et passer à une vie agréable. Lorsqu'on est libéré de façon anticipée et sans préparation, on se retrouve comme ces trois personnages sur le trottoir sans savoir où aller. Personne ne vous attend, personne n'est prévenu. Évidemment, vous n'avez pas préparé, vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas où aller, rien. Donc, dehors comme dedans, on a un peu le même problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette liberté ? La liberté qui n'est pas préparée, qui n'est pas organisée, devient en quelque sorte une autre prison. Paradoxalement, la liberté est une prison pour celui qui n'y est pas préparé. Et c'est bien ce qui va leur arriver, puisqu'ils restent sur le trottoir, le gardien est obligé de sortir pour leur dire de partir, de ne pas rester là, et on va voir pendant assez longtemps, tout le livre peut-être, qu'ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Nous n'avons pour l'instant de connaissance que de trois personnages et de la prison. Une autre information arrive, un camion traverse en ronflant le carrefour voisin et disparaît. Un camion. Un camion, ça veut dire le XXe siècle. Avant le XXe siècle, on n'utilise pas le mot camion. Donc jusqu'à maintenant, on ne savait pas. Hein, la porte de la prison, ça peut être un peu n'importe quand. Mais bon, voilà, un camion. Alors, on précise un peu l'univers, le temps. Les trois ont de la poussière dans, les narines, l'impression que l'air a changé de consistance et qu'ils ont vraiment cessé de nager dans les relents de serpillère et de tinette. Alors, serpillère et tinette, ce sont deux mots qui signifient les corvées de nettoyage. Corvées de nettoyage, principalement des toilettes. Alors, les corvées, ce sont des travaux auxquels on force les prisonniers à participer. Et pendant un certain nombre d'heures ou de jours ou de mois, on peut avoir des corvées parce que c'est chacun son tour, ou bien parce qu'on a été puni et donc on doit en faire plus que les autres. Et surtout les toilettes, c'est ce qu'on considère comme le plus désagréable, évidemment. Alors aujourd'hui, et surtout au Japon, nous sommes habitués à des toilettes propres, avec des systèmes de nettoyage, d'auto-nettoyage. Tout ça est très clean. Mais, évidemment, dans d'autres endroits, et peut-être en prison, on ne trouvera pas cette propreté, cette hygiène. Et les mots serpillière et tinette sont en quelque sorte des objets. Hein, la serpillière, c'est pour frotter, c'est le torchon, hein, la matière de tissu pour nettoyer, et la tinette, c'est la partie des toilettes, hein, sur laquelle on peut s'asseoir. Et ces deux objets désignent donc un lieu, les toilettes, et en même temps les activités qu'on peut y faire, c'est-à-dire aller aux toilettes. Ça veut dire que l'auteur choisit des mots qui sont des mots relativement propres, relativement polis, pour parler de quelque chose qui est peut-être très sale, très dégoûtant. On va dire qu'il s'agit d'une sorte de euphémisme, hein, d'utiliser des mots assez neutres ou dont le sens est assez faible pour nous faire comprendre quelque chose de beaucoup plus fort, désagréable ou agréable. L'euphémisme peut aller dans les deux sens. Mais lorsqu'il est question de toilette, en général, c'est plutôt dans le sens désagréable. Donc cet euphémisme, c'est le fait donc de dire moins... d'utiliser des mots relativement neutres pour faire comprendre plus, se fait ici par synecdoque. La synecdoque étant la figure de style qui signifie que l'on utilise le nom d'une partie pour désigner le tout. Alors, on parle des animaux en disant les têtes. Dans mon troupeau, il y a 50 têtes. Bien sûr, il y a 50 animaux. Sous la tête, il y a l'animal. Mais voilà, donc on utilise une partie pour dire le tout. Et ça permet de limiter le sens. Donc un euphémisme par synecdoque. Comme si l'auteur ne voulait pas utiliser de mots sales, comme le mot merde, ou caca, ou pipi. Bon, là, on est au travail, hein, donc on peut les utiliser. Mais voilà, on a évité de les employer. En revanche, et c'est peut-être ça qui est intéressant, si l'auteur ne veut pas utiliser de mots sales, nous voyons juste après un personnage qui, lui, n'hésite pas à utiliser des mots pas très polis. C'est le gardien de prison. Et je crois que serpillière et tinette sont des mots propres pour montrer que le narrateur d'un côté et le gardien de prison de l'autre sont bien de deux mondes différents. Le gardien de prison dit « ça suffit, vous êtes indésirable ». Bon, ça c'est pas extraordinaire. « On en a soupé de vos sales tronches ». Alors le mot « tronche » est bien sûr un mot très vulgaire, insultant, pour signifier la figure, la tête. Et donc en même temps la personne, bien sûr. Et sale, c'est-à-dire détestable. C'est pas au sens de l'hygiène, hein, c'est au sens moral. Donc, vos sales tronches, c'est un peu insultant. C'est le langage du gardien de prison. Et on en a soupé. Alors, l'expression en souper ou en avoir soupé de quelque chose ou de quelqu'un, ça veut dire que on ne supporte plus cette chose. On en a marre, comme on dit aussi, d'une façon plus familière et pas tout à fait vulgaire. Mais on en a soupé, c'est un peu plus vulgaire. Cherchez-vous un autre palace, comme si la prison était un palace. Donc ici, on se moque d'eux, on les ridiculise en disant qu'ils étaient dans un palace et ils peuvent en chercher un autre. Bien sûr, c'était pas un palace. Donc c'est une moquerie, une forme de mépris par antiphrase. Antiphrase, ça veut dire que on dit le contraire de ce qu'on voulait, de ce qu'on veut signifier. Vous habitez une prison, on vous dit que c'est un palace. Ça veut dire en même temps que on ignore, on refuse de considérer la réalité de votre situation. Vous, les trois prisonniers, vous étiez en prison, on vous dit que c'est un palace. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Allez vous faire pendre ailleurs. Se faire pendre ailleurs, expression là aussi familière, on pourrait pas dire vulgaire quand même, hein, se faire pendre ailleurs, ça veut dire aller voir ailleurs, aller Donc, ce langage, déjà, se différencie entre peut-être deux catégories de personnes, des personnes plus ou moins vulgaires et des personnes qui choisissent mieux leurs mots, le narrateur et le gardien de prison. Tout à l'heure, on parlait justement de cette situation de trois hommes qui sortent de prison et de ce qu'ils peuvent faire s'ils n'ont pas préparé leur sortie. Eh bien, on y arrive plus précisément. Ils n'ont pas une conscience claire de ce qui vient de leur arriver. On va maintenant nous expliquer pourquoi ils n'ont pas cette conscience. Libération anticipée, par manque de place, plus que pour bonne conduite. Voilà une phrase sans verbe, comme si c'était la réponse à une question. Pourquoi n'ont-ils pas une conscience claire? Eh bien, parce que, deux points, hein, libération anticipée, manque de place, bonne conduite. Bien sûr, la bonne conduite n'est pas la raison principale, c'est d'abord le manque de place. Le manque de place est juste après une ordonnance du ministre de la Justice, donc ça c'est comment ça fonctionne, hein. En haut lieu, on a dû prévoir pour bientôt une nouvelle fournée de clients. Une nouvelle fournée de clients, ça veut dire de nouveaux prisonniers pour la prison qui vont arriver. Et pour cette raison, pour pouvoir mettre les nouveaux, on est obligé de chasser, de faire sortir, de faire partir un certain nombre d'autres qui étaient là déjà. Ce qui veut dire que la liberté dont ils ne comprennent pas l'utilité, l'usage pour eux, en plus, ils ne peuvent pas en comprendre la raison. Ils sont libres sans raison. Ça veut dire que le ministre de la Justice, ici désigné, prend des décisions qui n'ont pas de rapport réel avec la situation individuelle des prisonniers. C'est ce qu'on appelle un régime arbitraire. On traite de votre situation sans relation avec la réalité de votre situation, mais en fonction de raisons diverses, plus globales, plus générales, et on vous déplace ici, on vous met là, on vous a. Cet arbitraire d'un système judiciaire nous fait penser, sans le dire, à un gouvernement qui ne serait pas démocratique. Comme ça, hein, on glisse petit à petit. Alors ça n'est pas écrit, mais le lecteur le pense. Ah tiens, libération anticipée, ça peut être bien, si c'est quelque chose qui est calculé pour cette personne, parce qu'il s'est bien comporté. Mais non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et d'ailleurs, d'autres qui arrivent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette justice condamne des gens par grande quantité, par masse, dans des prisons. Je ne sais pas si tout ça est tout à fait honnête, juridiquement, hein, sur le plan du droit, et démocratique sur le plan du gouvernement. Donc, sans nous le dire précisément, le narrateur nous fait comprendre que la situation des trois prisonniers, en relation avec un système judiciaire, lui-même à l'intérieur d'un système gouvernemental, n'est peut-être pas ce que nous pourrions appeler un gouvernement démocratique. Pour autant, il n'y a rien là d'exceptionnel. Aujourd'hui, la plupart des pays de notre planète ne sont pas des démocraties. Les gouvernements ne sont pas démocratiques et le modèle qui se trouve proposé par un certain nombre de pays dits démocratiques, européens, américains, asiatiques ou d'autres continents, n'est pas un modèle accepté par tous, aujourd'hui comme par le passé. Alors certains disent que bon, la démocratie progresse, mais il faudrait voir en détail, on y reviendra plus tard. Alors cette libération anticipée se trouve requalifiée de libération conditionnelle, hein, 5 lignes plus bas, avec mise à l'épreuve de 18 mois. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Traduction en quelque sorte en français normal, on les expulse, en somme, mais en menaçant de les reprendre à la moindre peccadille. Peccadille, petite faute, minuscule. Pecca en latin, c'est le péché, petit péché. Ça veut dire que même à l'extérieur de la prison, ils sont encore sous surveillance à l'extérieur, comme ils étaient déjà surveillés à l'intérieur. Peut-être arrêter, pas un peu chaud. Si vous avez froid, dites-le. Surveillés à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est-à-dire un système de gouvernement qui non seulement emprisonne des gens pour des raisons peut-être raisonnables, mais également surveille l'ensemble des autres personnes pour pouvoir les remettre ou les mettre en prison. Et ils ont signé avant de sortir sans enthousiasme, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de plaisir particulier à sortir, puisqu'ils ne comprennent pas pourquoi on les autorise ou on les fait sortir. Arrive donc leur nom de famille, Amir Bekian. Amir Bekian, qui est un nom d'origine arménienne, il y a dans la région de Tbilissi, en Géorgie, en Gorgia, des Amir Bekian. Bouderbichvili. Ça va, c'est pas trop difficile à prononcer. Bouderbichvili, qui est lui un nom d'origine russe, on va dire, globalement russe. Il y a beaucoup de noms en quelque chose vili. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, qui est une historienne spécialiste de la Russie, elle s'appelle Hélène Carrère-Dankos. Et on a des livres ici à la médiathèque de Hélène Carrère-Dankos. Alors, Carrère d'Ancos, comme ça, ça fait très français. Elle a dû se marier avec un français. Mais elle est née Zourabichvili. Le nom de famille, le nom de naissance de Hélène Carrère d'Ancos, d'origine russe, donc, elle est née Zourabichvili. Et donc, la France accueille, comme vous le savez, des personnes de toutes origines qui sont ensuite plus ou moins intégrées dans le système français, et avec la possibilité, si on le veut d'ailleurs, de changer de nom, hein, en se mariant, par exemple, et s'appeler Carrère d'Ancos. Et Macronneau, qu'on a déjà vu. Alors ça veut dire que souvent ces noms sont bizarres, étranges, mais ils existent. Où est-ce qu'Antoine Volodine est allé les chercher? Je ne sais pas. Dans des cartes de géographie, dans des livres russes, dans l'internet. Parce que, justement, hier soir, je regardais la notice Wikipédia de Khatchatourian, et en bas de ce document, il y avait une liste d'élèves de Khatchatourian, c'est-à-dire de musiciens qui ont été influencés par lui, que je ne connais pas, et leur nom, la liste de leurs noms, ressemblait tout à fait à une liste de noms de Volodine. Donc, c'est peut-être mon incompétence, mon manque d'habitude de noms de n'importe où dans le monde. Mais si on s'habitue à ces noms qui viennent de diverses régions du monde, eh bien, peut-être on devient plus tolérant vis-à-vis des autres. Alors bon, je dis ça à des Japonais, sachant que le Japon est une île dont la population est assez homogène, assez isolée, et qui n'a jamais été habituée à des mélanges de populations avec l'étranger, comme c'est le cas de la France. Donc là, il y a pour vous un travail, hein, psychologique supplémentaire à faire pour comprendre cette notion de mélange et d'intégration qui forme la population française et plus généralement la population européenne, hein, qui est globalement très très mélangée. Alors maintenant ils avancent. Au bout de 5 à 6 mètres, ils s'asseyent. Ouh là là, ils sont pas allés très loin. On dirait un peu, d'une façon assez comique, un texte de Beckett. Vous connaissez Beckett, hein, tout le monde connaît Samuel Beckett, qui était aussi chez Minuit d'ailleurs, hein, qui a fait le succès de l'éditeur en vendant beaucoup de livres, en attendant Godot par exemple. Hein. Eh bien chez Beckett, il y a comme ça des personnages, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de situation, il y a 2, 3, 4 personnes, ils parlent plus ou moins ensemble, ils se déplacent à peine. Quelque chose de Beckett, ici, chez Volodine, lorsqu'on a un peu l'habitude, c'est tout à fait raisonnable, normal, de penser à Beckett. S'il possédait une cigarette, il l'allumerait et se la partagerait. Or, il ne possède aucune cigarette. Le narrateur s'amuse un peu avec nous. Ce narrateur, d'ailleurs, on ne sait pas où il est. Il ne s'exprime pas. Et il montre son point de vue de temps en temps, et puis on a l'impression qu'il connaît à la fois l'intérieur, l'extérieur des personnages. C'est ce qu'on appelle un narrateur omniscient, qui sait tout. Un narrateur qui sait tout et qui s'amuse pas mal avec nous. Alors on va aller un petit peu plus vite, hein, progressivement, hein. Nous aussi, on n'a fait que quelques mètres, hein, à peine. Et je crois que le lecteur a tout intérêt à avancer à cette vitesse-là au début, s'il veut aller plus vite après. Alors, on va faire comme ça aussi. Et nous aussi, c'est le gardien de prison, hein, qui va nous obliger à partir. Vous savez qu'à midi, il y a un autre cours Et donc, nous serons obligés d'aller quelques mètres plus loin. Et on se retrouvera la semaine prochaine. C'est un petit peu la même chose, hein, cette situation de commencement, de départ. On peut remarquer tout de même que les noms des personnages, ce qu'on vient de dire sur les cigarettes, c'était quand même une sorte de jeu que le narrateur se permet avec nous, lecteurs. Parce que, dès le début, il aurait pu nous dire le nom et le prénom de chaque, clairement. Mais il a commencé avec deux prénoms et un nom de famille et un prénom. Ensuite, sur le livre, il y a les trois noms de famille. Et enfin, en bas de la page 10, on a associé les noms Matko Amirbekian et Wilma Grodno. Et donc, on peut comprendre que Aram, c'est le troisième, Bouderbich Vili, qui n'est donc pas dans l'ordre alphabétique, qui correspond à l'ordre des prénoms. Une sorte de jeu, de mélange, hein, pour s'amuser avec nous, et peut-être pour faire un peu de confusion chez le lecteur, hein, créer un peu de confusion. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont assis au bord du trottoir, et ils regardent un petit peu d'eau, comme ça, qui passe dans le caniveau. C'est une focalisation sur l'eau du caniveau, qui pourrait ressembler à quelques images dans un livre de Claude Simon, par exemple. Claude Simon décrit un personnage qui regarde comme ça une rigole, alors le mouvement même, hein, de l'eau comme ça. Et puis juste après, c'est un autre personnage qui est en avion, et par la fenêtre de l'avion, il regarde un fleuve qui fait comme ça le même dessin. Donc on joue avec la notion de focalisation, de distance, par rapport à un dessin, un schéma, comme ça. Et donc ce caniveau devient une veine gonflant. Une veine, c'est dans un corps vivant, dans un animal ou un être humain, sous une couche de terre pulvérulente. Pulvérulente, ça veut dire en poussière très fine. Ils regardent l'eau qui rampe. Donc vraiment, ils n'ont rien à faire. C'est triste, hein. Et cette focalisation amène le narrateur à nous faire comprendre, et même, je dirais, à nous faire ressentir intérieurement la situation morale, psychologique de ces personnages. Ils sont comme les impotents des mouroirs, c'est-à-dire des gens impotents, ça veut dire qu'on ne peut plus bouger. Hein, donc des gens très vieux ou très malades qui sont dans des mouroirs, ce sont des sortes d'institutions où on est obligé de laisser les gens mourir plus ou moins tranquillement et qui ne peuvent plus retenir leur corps, leurs besoins naturels et donc qui urinent sous eux et fixent des heures durant, leurs pantoufles détrempées. On retrouve d'ailleurs le thème des toilettes, hein, qu'on avait abandonné tout à l'heure, et qui est en quelque sorte le degré zéro, ou moins que zéro, de l'être humain. C'est-à-dire, l'être humain, c'est d'abord un corps d'animal. Et si ce corps fonctionne mal, eh bien, il est dégoûtant, il est monstrueux, il est inacceptable. On pourrait dire même inhumain. Et alors, pour être humain, il faut monter un petit peu plus au-dessus, avoir des codes, des conventions, de l'hygiène, de la propreté, des habitudes, qui forment justement habitus, hein, les usages, les habitudes de l'être humain, qui ne sont pas des animaux. Bon, mais là, on les voit donc tellement mal dans leur situation qu'ils ne sont pas mieux placés que des animaux au bord d'un trottoir. Des animaux ou des gens qui sont en train de mourir. Cependant, on ajoute, on dirait qu'ils méditent. Alors, méditer, c'est quand même un autre sens. C'est penser, réfléchir à quelque chose presque philosophique, hein, la méditation. Alors, est-ce qu'il y aurait une inversion, un passage? On passe par le degré zéro et plus bas que le degré zéro, et on revient au niveau de la méditation philosophique. Je ne sais pas. C'est un peu étrange, cette proposition. Bon, la porte de la prison se rouvre et le gardien, un peu plus sympa que tout à l'heure, on va dire un paternalisme canaille. C'est juste au milieu de la page 11. Paternalisme canaille, donc c'est le gardien de prison un peu comme un papa hein, qui vient les voir. Allez, c'est pas grave, vous allez arriver à quelque chose, allez, 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 il faut partir les petits. Hein. Ou bien dans le nid, hein, les petits oiseaux hein, qui sont en train de grandir comme ça, et puis on les pousse, on dit, allez, allez, il faut vous envoler maintenant, hein, il faut partir. Alors faites une croix sur le passé et oust. Donc faire une croix, c'est une expression hein, qui veut dire laisser tomber, abandonner, finir avec quelque chose. Et oust, encore un mot du langage courant, une sorte d'interjection, hein, comme hop, oust, pour faire partir quelqu'un. Vous avez encore la vie devant vous. Je ne sais pas si c'est ironique ou pas ironique. Peut-être un peu gentil. Et j'espère bien qu'on ne se reverra plus. C'est presque sympathique, ça. Parce que on ne se reverra plus, ça veut dire on ne reviendra pas en prison. Bon, donc ils souhaitent quand même que ça marche. Alors ils se relèvent, ils oublient, bon, et ils vont plus loin s'asseoir devant une scierie. Une scierie, c'est un bâtiment où on coupe du bois. Donc il y a des ouvriers qui sont des scieurs avec des scies. Et c'est la pause de midi. Ils comptent leurs pièces, on en a parlé tout à l'heure, et cette fois, ils les partagent. Donc la notion de partage entre les trois commence à exister. Hein, au début, ils sont trois. Deuxième ligne, hein, ils sont trois. Mais on ne sait pas s'ils partagent quelque chose. Et en bas de la page 11, ils partagent leurs pièces. Ils n'ont pas le même nombre de pièces chacun, mais ils mettent en commun et ils divisent par trois, cinq chacun. C'est équitable. Une forme de base du groupe humain. Hein, de répartir les moyens en disant, bon ben, on va voir ce qu'on va faire, on prend cinq chacun. Et ils les empochent, et ensuite on change de paragraphe et on change d'histoire. D'un seul coup, on passe, on ne sait pas où, dans un autre endroit, dans une autre ville, on ne sait pas. C'est aussi l'histoire d'un oiseau qui, à la fin de l'automne, n'a pas pu accompagner son groupe vers le sud car il a eu l'aile blessée lors d'une bagarre avec les frondistes. Alors, l'histoire d'un oiseau. Bon, moi je connais des histoires d'oiseaux, il y a des contes pour enfants, des choses comme ça qui racontent des histoires d'oiseaux. Et à la fin de l'automne, il n'a pas pu accompagner son groupe vers le sud. Donc, précisément, c'est ce qu'on appelle un oiseau migrateur. Tous les oiseaux ne sont pas des oiseaux migrateurs. Les pigeons restent ici à Tokyo. Mais il y a des oiseaux qui traversent alors des continents, qui font des milliers de kilomètres, et qui reviennent exactement au même endroit. C'est un mystère des oiseaux. Alors celui-là n'a pas pu partir vers le sud. Le sud, on ne sait pas lequel. Il y a un sud. Il a eu l'aile blessée lors d'une bagarre avec les frondistes. Qu'est-ce que c'est que ça, les frondistes? Alors, depuis le début, hein, le narrateur nous pose des choses qui sont comme si nous les connaissions, alors qu'on ne les connaît pas. Prison, une rue, maintenant on a un oiseau, on a un système judiciaire qu'on a vu tout à l'heure, et puis des frondistes. C'est une sorte de technique, ou bien de souhait hein, de ce narrateur, de nous poser des choses comme ça sans nous expliquer. Alors, on comprend que pour lui qui écrit, ce sont des choses familières. normale, évidente. Moi, je dirais, bon, ben, vous allez au métro là-bas, vous prenez le JR et vous allez à Shinjuku. J'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est que le JR ou la station. Ça fait partie de ce que nous partageons. Et le narrateur fait comme si nous, les lecteurs, nous partagions avec lui toutes ses connaissances de ce monde. Ça veut dire qu'il nous met avec lui, avec le texte, dans cette situation, dans ce monde, sans nous expliquer. Bon, il donne des explications hein, quand même de temps en temps, mais nous avons l'impression d'être entraînés dans un endroit que nous ne connaissons pas et qui pourtant serait en quelque sorte familier. Familier et en même temps étranger. Familier et étrange. Familier et étrange, ça pourrait être un peu des contraires, hein, parce que étrange, étranger, familier de ce qu'on connaît autour de soi. Et c'est pourtant la technique hein, littéraire, alors, utilisée par l'auteur et qui semble être la volonté du narrateur. Donc il y a quelque chose, des gens, qui s'appellent frondistes. Parce que parmi les oiseaux, c'est quand même difficile d'avoir un mot en « iste ». Parce que « iste », comme « socialiste », « communiste » ou d'autres, hein, en « iste », ça veut dire « qui participe à une forme de pensée, à un groupe organisé, ou à une idée, une idéologie ». Alors, on n'a pas de connaissance de ça parmi les oiseaux. On ne sait pas s'il y a des oiseaux capitalistes ou communistes, par exemple. Hein. C'est même ridicule comme idée, parce que les oiseaux ne pensent pas comme ça, s'ils pensent. Donc alors, cet oiseau, il est à la fois un oiseau, puisqu'à la page 12, il a perdu des plumes, et en même temps, il participe à des activités avec des êtres humains. Et d'ailleurs, il habite, page 12, première ligne, dans une mansarde, c'est-à-dire une pièce en haut d'un bâtiment, vous savez, sous les toits, hein, avec les fenêtres percées dans le toit, c'est la mansarde. Au fait, hein, ça veut dire tout en haut d'une maison, qui va être démolie, et pas encore. Les fenêtres sont cassées, les murs sont lézardés, c'est-à-dire fendu, et une petite fenêtre hein, qui s'appelle Vasistas, qui vient d'ailleurs de l'allemand. En allemand, on dit Vasistas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas pourquoi, c'est devenu le nom de cette petite fenêtre des mansardes. Et cet oiseau s'appelle Ragojin. Alors, Ragojin, un nom en in, d'ailleurs c'est un peu comme Volodin, hein, Ragojin, d'origine russe. Est-ce qu'on connaît des Ragojin? Vous connaissez-vous des Ragojin? Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé comme Ragojin? Il existe un homme célèbre qui s'appelle Ragozin. Alors, comme ça vient du russe, hein, on ne sait jamais comment on doit prononcer, hein, qui était un joueur, un spécialiste d'échecs. Chess, Ragozin. Bon. Mais également dans le roman de Dostoïevski qui s'appelle L'Idiot, il y a un personnage qui s'appelle Rogojin, qui est le marchand, un des personnages principaux hein, dans L'Idiot de Dostoïevski. Donc Ragojin, Rogojin, Ragozin. Bon, alors, on joue comme ça sur des noms qui existent quand même. À peu près. Alors pour l'instant, il n'a pas de prénom. Lui s'appelle juste Ragojin. Et alors il souffre de sa situation, à la fois blessé et clandestin, donc caché. Il était donc d'un groupe et il n'a pas pu partir avec son groupe vers le sud. Donc il se trouve isolé. Et puis, il souffre la situation, la vie clandestine, et encore à cause des cris brutaux de la nuit. Qu'est-ce que c'est, les cris brutaux de la nuit? C'est ce qu'il entend par la fenêtre. Vacarme des vitrines qui éclatent. Attentat. Clameur haineuse. Voilà trois expressions qui révèlent quelque chose d'une société. Une société dans laquelle, si vous êtes à une fenêtre d'un bâtiment, d'ailleurs lui-même presque détruit déjà, vous entendez des bruits, mais qui ne sont pas des bruits agréables, qui font peur. Ce sont des vitrines qui éclatent, c'est-à-dire des manifestations, des attentats, des explosions, et des clameurs haineuses. Clameurs haineuses, ça veut dire des personnes ou des groupes de personnes qui crient, clamer, crier, et qui crient des paroles de haine. Ça veut dire de désigner quelqu'un pour montrer sa haine, en disant qu'on n'aime pas telle ou telle personne, ou telle catégorie de personnes. Là encore, d'une façon très floue, hein, pas encore très nette, mais qui indique bien une situation de société assez extraordinaire, et en tout cas plutôt désagréable. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça n'est pas ce que l'on peut souhaiter, je crois. Et la solitude l'écrase. À Chamrouche, comment on peut prononcer ce nom de ville? Ça aussi, c'est un peu bizarre. Alors moi, je ne connais pas de ville qui s'appelle Chamrouche, donc c'est une ville imaginaire. Cependant, en France, il y a une toute petite ville de Savoie où on fait du ski, une station de ski qui s'appelle Chamrousse, avec deux S, pas avec CH. Donc évidemment, c'est pas la même chose. Et puis, grâce à Internet, j'ai trouvé que dans des montagnes de l'Atlas, c'est-à-dire de les montagnes de l'Afrique du Nord, il y avait un minuscule petit village qui s'appelait Chamrouche. Je crois que ça n'a aucun rapport. D'autant qu'à la page suivante, on dit que cet oiseau n'a pas une bonne connaissance de la capitale. Donc, Chamrouche, c'est bien le nom de la capitale de ce pays, et ce pays a un sud, hein, donc il s'agit quand même de quelque chose d'assez grand. C'est pas un petit village des montagnes de l'Afrique du Nord. Et puis donc, il était blessé, sa blessure est mauvaise. Bien sûr, il n'est pas bien soigné, donc il ne guérit pas, et ça s'infecte, ça se redéchire. Et il n'a plus une seule plume du côté droit. Alors, là aussi, est-ce qu'il est un oiseau ou pas un oiseau? Les deux en même temps. Ça, c'est l'univers de Volodine. Il est et il n'est pas un oiseau. Et ça veut dire que nous devons imaginer un monde, une situation, dans laquelle on peut être et ne pas être en même temps un oiseau. Ce que nous appelons un oiseau. Mais ce que eux appellent un oiseau, ce serait un être vivant qui peut être vivre dans la même société que les êtres humains. Et donc se bagarrer avec des frondistes, par exemple. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore à propos de l'oiseau? Oui, il y aura d'autres oiseaux après. À la page 14, on dit que ce n'est pas un oiseau, mais deux. Comme au début, donc, et vers la fin des années 80, Will McGraw-Nau faisait partie du groupe de Ragogin. Ah tiens, il y a une relation entre les deux groupes qu'on a vus, juste avant d'être incarcéré pour trafic d'armes et usurpation d'identité. Donc voilà, trafic d'armes, usurpation d'identité, ce sont des hommes, ou comme des hommes, mais qui sont nommés des oiseaux. Et en même temps, ils sont un peu des oiseaux, puisqu'ils ont des plumes. Alors c'est vrai qu'on dit aussi, comme une expression, perdre ses plumes. Par exemple, quelqu'un qui a fait des mauvaises affaires, il a raté complètement son business, et il dit « j'ai perdu toutes mes plumes dans cette histoire ». C'est pas un oiseau, mais il utilise quand même l'expression. Alors on va voir, surtout au sujet des oiseaux, dans ce livre, beaucoup d'expressions, comme si Volodine avait rassemblé un catalogue des expressions sur les oiseaux, souvent très familières, amusantes, avec lesquelles vous pourrez enrichir votre vocabulaire. Alors on va s'arrêter parce que on a encore quelques plumes à sauver pour aujourd'hui. Et on n'est pas allé très loin, mais on a commencé, on est entré dans l'univers de Volodine. J'ai ici également le dernier livre de Volodine qui s'appelle Macao. Macao, du nom de la ville, et qu'il a réalisé avec un photographe. Alors, si vous voulez voir ces photographies, vous pouvez, on peut s'arrêter dehors un peu pour voir ces très belles photographies qui ne sont pas de Volodine, mais de Olivier Aubert, un photographe. Voilà. Donc, la semaine prochaine, j'essaierai de résumer un petit peu quelques pages jusqu'à la page 30, et puis on pourra commencer à parler des pages 31 à 38.